الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد.
Le hadith suivant, en vérité, il y a beaucoup de leçons à en tirer, mais on ne va pas pouvoir s'étaler beaucoup dessus, sinon un cours ne suffirait pas. C'est le hadith de Abi Huraira radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « La foi est composée de plus de 70 ou 60 et quelques degrés. Le plus élevé est le fait de proclamer qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. » Le moindre d'entre eux de ces degrés-là est le fait d'ôter de la route un objet gênant. Et la pudeur est un degré de la foi. Premièrement, dans la traduction de ce hadith, quand on dit « bid'un wa sab'una » ou « bid'un wa sittuna shu'ba » Al-bid'u, en langue arabe, c'est un chiffre compris entre 3 et 9. Ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pour ça qu'on pourrait le traduire par 70 et quelques, et 60 et quelques branches. Parce qu'il n'y a pas un mot en français qui dit entre 3 et 9. Mais le sens précis, c'est entre 63 et 69, ou 73 et 79. C'est pour cela qu'on trouve certains savants, rahimahumallah, qui ont essayé de dénombrer ces différents degrés, ces différentes branches de la foi. Parmi ceux qui ont fait un livre spécifique sur cela, il y a l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, Shu'abul Iman, les branches de la foi. Et il a fait comme ça, premier degré, deuxième degré, troisième degré. Non. On peut en tirer de ce hadith seul la définition de l'iman chez Ahl Sunnah. Une croyance avec le cœur, une parole avec la langue et des actes avec le corps qui augmentent avec l'obéissance et qui diminuent par la désobéissance. Premièrement, il définit que la foi c'est des degrés. Donc quand il définit c'est des degrés, ça veut dire quoi ? La foi, elle, augmente et elle diminue. Car s'il y a des degrés plus hauts et des degrés plus bas, effectivement, il y en a qui ont une foi plus forte et d'autres une foi plus faible. Sinon, il n'y aurait qu'un degré. Donc ce hadith prouve l'augmentation et la diminution de la foi. Et vient donner les trois piliers de la foi, du iman. Un acte du cœur, une parole de la langue et un acte fait par les membres. L'acte du cœur, c'est quoi ? La pudeur. Une parole, c'est le fait d'attester qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et un acte fait par le corps, par les membres, le fait d'ôter du chemin quelque chose qui gêne le passage des gens ou bien qui leur est nuisible. Donc, la foi, c'est ces trois choses ensemble, indissociables. Et on ne vient pas discuter est-ce que c'est une condition d'acceptation, une condition de complétude, Non, car quand on dit condition, c'est quelque chose qui est extérieur à la réalité de la foi. Donc les œuvres, ce n'est ni une condition de parfaire, ni une condition de validité. Non, les œuvres font partie intégrante de la foi. Regardez, quand on étudie le fiqh ou quand on étudie différentes matières, qu'est-ce qu'on dit ? La condition, c'est quelque chose d'extérieur à la réalité de la chose, qui vient conditionner la chose, valider ou invalider. Donc, on voit dans ce hadith ce fondement essentiel chez Ahl Sunnah wal Jama'ah, que la foi est dans le cœur, et une parole de la langue, et des œuvres avec les membres, qui augmentent avec l'obéissance d'Allah, et qui diminuent avec la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez comment dans ce hadith, qui fait deux lignes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé la définition du iman, pour celui qui médite et qui comprend les paroles du prophète alayhi salatu wa sallam. Contrairement à deux groupes qui ont divergé avec Ahl Sunnah, mais qui ont été d'accord sur un point, c'est que la foi est un tout. Ou elle est là en entier, ou elle part en entier. Elle ne peut pas diminuer ou augmenter. Elle est présente ou absente. Qui sont ces deux groupes ? Les Khawarij et Al-Murji'a. Ce sont deux opposés, mais ils sont d'accord. Pour eux, la foi, ou elle est présente, ou elle est absente. Wadih. C'est pour ça les Khawarij, ils considèrent que quand quelqu'un fait un grand péché, c'est un kafir. Parce qu'avec le grand péché, la foi est partie. Et c'est pour cela qu'un murji, il dit, il peut faire tous les péchés qu'il veut. Ça ne diminue pas sa foi. Parce que pour eux, la foi, c'est le fait de reconnaître. Une fois qu'il a reconnu qu'Allah est le seul qui mérite d'être adoré, ça suffit pour eux. Et chez les murji'a, il y a des degrés. Entre ceux qui disent qu'il y a la reconnaissance seulement du cœur, la parole seulement avec la langue, même s'il ne reconnaît pas avec son cœur, ou ceux qui disent qu'il faut la reconnaissance du cœur et la parole de la langue, mais qui ne rendent pas les actes dans la foi. C'est pour ça qu'ils ont été appelés al-murji'a. Al-irja, c'est le fait de retarder, d'écarter, d'éloigner. Ils ont éloigné les œuvres de la définition ou de la réalité de la foi. Et bien sûr, ces deux groupes se sont trompés, se sont égarés et ne sont pas sur la voie sur laquelle le prophète alayhi salat wa salam nous a laissés. Ceux qui considèrent que celui qui fait un grand péché, il a mécru en cela, ne voient pas que le grand péché et la foi, ils peuvent cohabiter. Ils disent, comment quelqu'un qui a la foi, il fait un grand péché? S'il fait un grand péché, c'est un kafir. Voilà comment ils voient les choses. Binaire. Et les autres, ils disent, il fait les péchés qu'il veut. La foi du plus grand des pécheurs, c'est la même foi qu'Abu Bakr pour eux. Ou la foi de Jibril. Il n'y a pas de différence. Vous imaginez? Non. Donc, tout ce qui permet de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les œuvres aimées et agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ces œuvres soient obligatoires, surérogatoires, elles font partie de la foi. Et elles sont des branches de la foi. Toutes les œuvres, paroles, actes aimés par Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de la foi. Et c'est pour ça, Allah ta'ala, quand il parle des croyants, il dit, dans le sens des versets, mais certes Allah vous a fait aimer la foi. Donc aimer la foi, là, dans ce sens-là, c'est toutes les œuvres aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les croyances, dans les paroles, ou dans les actes, ou dans les œuvres du cœur. Dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a mentionné le plus haut degré de la foi et son degré le plus modeste et un degré intermédiaire qui est al-haya, la pudeur. Et la pudeur est un degré de la foi. Pourquoi le prophète alayhi salat wa sallam il a choisi la pudeur? Car la pudeur, c'est une qualité essentielle chez le croyant. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison. Allah tabarak wa ta'ala, par sa sagesse, a voulu que dans ce hadith, tous les différents piliers de la foi soient cités. Donc, il a cité un acte du cœur. Le croyant, il doit éprouver de la pudeur envers Allah. Allah ta'ala l'a créé, nourri, préservé. Il lui octroie ses bienfaits apparents et cachés. Lui, en échange, il doit éprouver de la pudeur envers Allah. C'est-à-dire qu'il a honte de lui désobéir. Il sait qu'Allah voit ses œuvres, qu'Allah voit ce qu'il y a dans sa poitrine. Donc il a honte d'être devant Allah d'une manière qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a honte d'utiliser les bienfaits qu'Allah lui a donnés pour faire ce qu'Allah réprouve et déteste. Donc cette pudeur, elle est essentielle. C'est celle qui pousse le croyant à se dire comment je vais désobéir à Allah avec la vie qu'il m'a donnée. Le temps qu'il m'a donné, la santé qu'il m'a donné sur sa terre qu'il a créée et avec les bienfaits qu'il a créés. C'est pas possible. Cette pudeur, elle l'empêche de faire cela. Et si par faiblesse, il y est tombé, cette pudeur, elle va le pousser à regretter et à se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, cette pudeur, elle aide à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car elle aide aussi à éprouver de la pudeur envers les autres. La pudeur envers les gens, c'est de ne pas se montrer sous un mauvais jour devant eux, être ingrat envers eux alors qu'ils ont été bons envers nous. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens n'a pas été reconnaissant envers Allah. Donc cette pudeur, elle l'empêche de faire cela, de se comporter d'une manière indigne en public, de dévoiler ses péchés. Il va les garder entre lui et Allah et se repentir d'être grossier, de vouloir le paraître. Donc, c'est quelque chose d'essentiel pour un croyant. C'est une qualité bonne et noble et elle ne comporte que du bien. Ce n'est pas une qualité spécifique aux femmes, mais partagée entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, Uthman ibn Affan radiallahu anhu était tellement pudique que même les anges ressentaient de la pudeur envers lui. Vous connaissez le hadith, le prophète alayhi salat wa salam, il était assis, les jambes allongées, son izar était relevé jusqu'à au-dessus de son genou. On voyait une partie de sa cuisse. Abu Bakr est entré, il est resté comme ça. Omar est entré, il est resté comme ça. Quand Uthman est entré, il a couvert sa cuisse et son genou. Il a dit au messager d'Allah, Abu Bakr est entré, Omar est entré, tu as laissé la moitié de ta cuisse découverte. Mais quand Uthman est entré, tu as couvert ta cuisse. Il a dit, comment je n'éprouverai pas de pudeur envers un homme dont même les anges éprouvent de la pudeur envers lui? Non. Donc, la pudeur ne comporte que du bien. Et c'est une qualité essentielle chez le croyant en général et nécessaire chez la femme croyante encore plus. Car c'est une caractéristique de la femme musulmane. Dans sa manière de parler, dans sa manière de marcher, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se comporter. Comme pour les hommes. Mais elle encore plus. Puisque la femme en islam, il lui est demandé d'être encore plus discrète que l'homme. De se cacher plus que l'homme. Car la femme en islam, elle est plus à la maison. Et l'homme, il est dehors, n'est-ce pas ? L'ordre, il n'est pas venu aux hommes de rester à la maison. Mais il est venu pour les femmes. La pudeur, elle n'est pas résumée dans le voile. C'est un comportement. Parce que, subhanallah, aujourd'hui, on a des sœurs, Allahumma barik, le voile. Mais elles ne se comportent pas de manière qui va avec le voile. Elles haussent la voix, elles crient, elles courent dehors, elles sautent, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font. Le voile, il ne représente pas la réalité de la pudeur à lui seul. Ça fait partie de la pudeur de la femme. Mais cela ne résume pas la pudeur. Il y a des femmes, subhanallah, qui sont ignorantes, qui connaissent pas les règles du voile, mais qui sont très pudiques, qui aiment pas être vues, qui sont discrètes. Quand quelqu'un leur enseigne qu'est-ce que c'est le hijab shar'i, elles le portent correctement. Mais elles ont déjà le comportement qui est pudique. Donc la pudeur, c'est un tout, et il n'est pas résumé dans un vêtement. Bien que ça fait partie de la pudeur, et c'est essentiel. Le vêtement, c'est important dans la pudeur, car il vient cacher les parties qui doivent être obligatoirement cachées aux yeux des étrangers. Non. Puis, il a cité aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le plus haut et le plus élevé des degrés de la foi, qui est aussi sa base et son fondement, qui est le fait de proclamer qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, sincèrement, du plus profond de son cœur. Ce n'est pas juste le proclamer sans comprendre sa signification. Le proclamer, en comprendre sa signification et mettre en pratique cette parole, s'y soumettre avec les différentes conditions qu'on en connaît, l'aimer, s'y soumettre, la dire sincèrement, avec science, en connaissance de cause de ce qu'elle implique, etc. Donc, quand une personne proclame cette parole de vérité, avec sincérité, science, véracité, soumission, toutes ces qualités et ces conditions qui sont inhérentes à cette parole, alors cette personne-là, elle se sent pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle sait qu'Allah, c'est lui le riche, et qu'Allah, c'est lui le puissant, et que lui, il est faible. Alors, il adore Allah du fait qu'il sait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Car on ne peut pas, quoi qu'on fasse, adorer Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. C'est pour ça, le croyant, il ne se compare pas au plus faible des gens. Ah, ben, par rapport aux autres, c'est bien ce que je fais. Mais il essaie de comparer ses actes à ce qu'Allah mérite comme adoration. Et là, il va voir qu'il est manquant, faible. Déjà, les obligations, il ne les fait pas correctement. Alors, il va se sentir fauteur, manquant vis-à-vis d'Allah Ta'ala, ce qui va le pousser à se repentir et à faire plus de bonnes œuvres et à chercher à en faire plus pour gagner plus auprès d'Allah Tabaraka Ta'ala le jour du jugement dernier. Le plus grand danger, c'est de se dire « Alhamdoulilah, ça suffit, on s'arrête là » sans être sûr que ne serait-ce qu'un sujoud ou un recours ou un tasbih, il est accepté. Non. On voit aussi, barakallahu fikum, que la complétude de la foi, c'est une relation avec Allah Ta'ala et une bonne relation avec les créatures d'Allah. Tout ce qui peut amener le bénéfice, le bien pour les créatures d'Allah et qui peut repousser le mal qui pourrait toucher les créatures d'Allah, c'est une œuvre de la foi. C'est-à-dire le plus petit exemple, quelque chose de vraiment qui paraît anodin, retirer quelque chose du passage qui gêne les passants. Donc allons-nous dire, celui qui retire quelque chose de plus dangereux ou qui les préserve d'un mal qui pourrait les toucher, si cela ne fait pas partie de la foi, bien sûr. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs d'entre vous et les gens qui seront les plus proches de moi en assise le jour du jugement dernier, ceux qui ont parmi vous les plus hautes moralités et les meilleurs caractères. La foi, Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate Ibrahim a comparé la foi à un arbre sain, bon, dont les racines sont solidement ancrées dans la terre et dont les branches s'élèvent haut vers le ciel, qui produit des fruits quelle que soit la saison par la permission de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, il vient détailler ce verset. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين